Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Taxes and fees extra. Additional restrictions apply. See full terms at mintmobile.com.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Je ne veux pas peut-être faire d'enfant parce que voilà, c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair.
Je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans, j'en veux pas. Mais j'ai peur du réveil plus tard, s'il y en a un.
Le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot.
Et par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant et qui là maintenant est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie.
Je peux en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué en fait de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est deux enfants.
Je suis Tipora, hoste du podcast « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non-désir d'enfant. Attention, le contenu de cet épisode évoquera des sujets sensibles, notamment des tentatives de suicide. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel, un jeune homme de 32 ans qui a choisi de partager son histoire avec nous depuis le Canada. Son récit est à la fois captivant et émouvant, et il nous dévoile les raisons profondes derrière sa décision de ne pas avoir d'enfant. C'est un témoignage qui nous invite à réfléchir sur les choix de vie et les obstacles que chacun et chacune peut rencontrer en chemin. Bonne écoute.
Alors, je me présente Jonathan Pascal Thérésine, mais à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux, j'utilise beaucoup le pseudonyme de Rafata. Donc, je suis originaire de l'île de la Guadeloupe. J'ai grandi au départ avec ma mère et ma grand-mère, du côté maternel. Puisque quand mes parents se sont connus, c'était en 89, mon père était là pour les vacances. Donc c'était une petite histoire sexuelle, on va dire. Donc suite à ça, après son départ, ma mère a su qu'elle était enceinte de moi. Je sais que ils ont conversé par lettre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les outils que l'on a au jour d'aujourd'hui. Donc, ils ont beaucoup conversé pendant sa grossesse, même après l'accouchement. La dernière correspondance que ma mère a eue de mon père, c'était où il nous souhaitait une bonne année 1991. Puisque j'ai lu ces correspondances, donc c'est tout ce que j'ai comme information sur mon père. Je ne l'ai jamais rencontré, jamais parlé. Et ma mère, sinon après ça, elle a refait sa vie, puisque après le décès de ma grand-mère, puisqu'on vivait ensemble, elle a refait sa vie avec mon beau-père et de cette union est né mon frère. Et 5 ans après moi, il est né en 95, donc j'ai un petit frère. Et ma mère a refait sa vie avec mon beau-père, mais bon, c'était pas très réjouissant non plus. Parce qu'il y a eu les infidélités du côté de mon beau-père. Il avait des maîtresses. Et même après la naissance de mon frère, il a eu d'autres enfants après mon frère. Donc, les rapports ont été très difficiles, justement, dans cet environnement familial à cause de ça. Déjà, de manière générale, tu vois, j'ai toujours été différent. Je ne faisais pas selon les standards véhiculés par la société en tant qu'homme, étant né de sexe masculin, puisque, comme je te disais, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je l'ai toujours été depuis ma naissance. Je savais pas ce que c'était. Maintenant, je mets les mots là-dessus, mais j'ai toujours été comme ça. Il y a des choses qui me touchaient, je pouvais pleurer. Et en tant que garçon, ça, c'est mal vu. par rapport à cela, j'ai beaucoup été critiquée et c'est là que j'ai eu les qualificatifs d'homosexuel sans même savoir ce que cela pouvait signifier à l'époque, puisque j'étais un très jeune enfant et on se moquait de moi, tu vois, par rapport à cela. C'était compliqué, ça m'a beaucoup peiné. Selon la réaction de mon entourage, c'est comme si je faisais exprès de faire ça alors que c'était naturel chez moi. Mais comme je te disais, il y avait des rôles spécifiques à l'homme et je ne rentrais pas dans cette catégorie, à savoir aimer les camions, tout ça, aimer le foot. Ça, c'est quelque chose que j'ai horreur. Moi, j'ai toujours été attiré naturellement par les jouets codifiés pour les filles, à savoir les poupées, ce genre de choses. Et par rapport à ça, un garçon qui est supposé aimer, tu vois, des choses spécifiques pour les garçons selon la société, s'il s'intéresse à ça obligatoirement, selon l'environnement, tout de suite, homosexuel. J'ai été étiqueté, tu vois, là-dedans. Et aussi, ma voix qui n'est pas très grave selon les standards en cours de la société pour un homme. Donc, tout de suite aussi, parce que tu entendras et possiblement les auditeurs vont entendre le timbre de ma voix, beaucoup penseront au départ que je suis une femme. Or, ce n'est pas le cas, mais c'est selon le timbre de ma voix. Ah oui, aussi, tu vois comment les garçons disent viril, comment ils s'assoient là, les jambes écartées à 360 degrés. Ça ne m'a jamais attiré. Donc, c'est pour te dire que j'ai vraiment grandi dans un environnement très toxique dès mon plus jeune âge, de jalousie, d'hypocrisie. Je ne suis plus proche de mon frère. Mais là, complètement, le contact a été coupé avec mon frère. Mais au début, oui, mais tu vois, les premiers temps, les premiers mois, on va dire les 3 premières années. Mais après, ça a commencé à changer puisque au niveau de ma mère et de mon beau-père, ils avaient une attention particulière avec mon frère qu'il n'y avait pas avec moi. Moi, il y avait beaucoup des exigences et tout. Et avec mon frère, je les trouvais beaucoup plus souples. Donc, en observant ça, ça a créé une jalousie, une forme d'envie envers mon frère et aussi une forme de colère. Parce que par rapport à mes connaissances de l'époque, je me suis dit que s'ils sont comme ça avec moi, c'est parce que c'est à cause de mon frère, c'est parce qu'il est là. Parce que j'avais ce sentiment, en fait, d'être rejeté, abandonné, de ne pas être aimé, de ne pas être désiré. C'est comme ça, moi, j'ai interprété les faits et gestes de ma mère et de mon beau-père envers mon petit frère. Mon frère, au limite, il devait tout faire. Des fois, je donne un exemple simple. Par exemple, pour regarder la télé, je devais demander la permission pour pouvoir allumer la télé, regarder. Mon frère, c'était pas le cas. Il pouvait venir, il allumait la télé comme il voulait, on lui disait rien. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça. C'est là, en fait, ça a créé cette rivalité avec mon frère puisque j'ai toujours cherché. Je me suis toujours donné à fond pour en tout cas essayer d'avoir l'amour de ma mère ainsi que de mon beau-père. J'avais 18 ans, je n'avais pas encore 19 ans et j'ai quitté justement par rapport à cela parce que j'en pouvais plus. Parce que je t'avoue, ça a été très stressant que j'ai fait des tentatives de suicide hein, aussi. J'ai tenté par 2 fois de me suicider. À cause de ça, parce que surtout, tu vois, le fait de ne pas se sentir à sa place, qu'on ne te fasse pas sentir que tu es désiré, qu'on t'aime. Parce que moi, c'est comme ça que je le percevais à l'époque. Que je ne suis pas aimé, qu'on ne me désire pas. Donc, moi, je me suis dit, ben, mon existence sur Terre est inutile. Donc, le mieux serait que je meure. Donc, j'ai essayé. J'ai tenté par 2 fois, ça n'a pas réussi. Et j'ai dit que si je restais, j'aurais fait encore une autre fois. Et là, j'aurais fait en sorte à ce que ça fonctionne. Parce que j'en peux plus. Non, j'en pouvais vraiment plus, tu vois, de toutes ces humiliations, ces accusations à mon égard. J'avais déjà commencé à couper les ponts. Mais il y en a d'autres, ça s'est fait au fur et à mesure, déjà en quittant, après avoir quitté le domicile. Toutes les rumeurs qui étaient colportées sur moi, qui venaient d'eux, Donc, tout de suite, là, ça m'a dégoûté. Donc, au fur et à mesure, j'ai dit, telle personne-là, c'est fini. Elle est rayée de la liste. Et suite à ça aussi, avec ma mère, ça a été... Je ne parlais pas à ma mère hein, aussi. Je me suis vraiment fâché avec ma mère pendant 3 ans. J'avais vraiment coupé les ponts parce que ma mère n'a pas été tendre avec moi. Il ne faut pas on s'entend. Même si, à l'heure actuelle, je sais que c'était pas volontaire vraiment de sa part dans le sens que c'est ce qu'elle avait appris, c'est ce qu'elle connaissait. Donc, c'était les mécanismes qu'elle a mis en place à cette époque. Ça veut pas dire que j'excuse son geste, mais je comprends et j'ai réussi au fur et à mesure à lui pardonner complètement ce qu'elle a fait parce que j'ai compris le pourquoi. Parce que c'est comme ça qu'elle a été éduquée. C'est comme ça que ma grand-mère et même mon grand-père ont été avec elle. Ils étaient très durs avec elle et très violents physiquement et psychologiquement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a été avec moi aussi également. Elle a répété le même schéma puisque c'est ce qu'elle connaissait. Je n'excuse pas, mais je comprends. Et c'est tout ça qui m'a aidé au fur et à mesure à lui pardonner. Et c'est comme ça que j'ai repris le contact avec elle. Mais pendant 3 ans, le contact avait été coupé de manière très radicale. C'est moi aussi qui avais fait ça parce que j'ai dit non. Elle m'a trop fait subir, parce que tu vois, quand je t'ai dit violence psychologique et physique, plein de fois aussi, j'ai été battue par ma mère, mon beau-père, par rapport à mon frère. Quand mon frère allait mentir, inventer des choses, soi-disant, il disait que c'est moi qui avais fait, alors que c'était lui. Et on le croyait. Et après, on me corrigeait physiquement. Les séquelles que ça a laissé, surtout après psychologique, c'est pour ça que je parle de violence physique et psychologique, parce que après, ça a laissé des séquelles psychologiquement. Mon beau-père, lui, c'est clair, lui, c'est fini. Je n'ai pas de bon contact avec mon beau-père à l'heure actuelle. Mais avec ma mère, on a fait la paix. Tant mieux parce qu'après, quelques semaines après, elle est décédée. Les choses se sont tellement bien faites. Je suis revenu, on a fait la paix. Et 1 mois et demi après, elle est décédée. Au départ, le désir est venu par rapport à ce que je t'ai expliqué. Tout, l'absence de ce père. Parce qu'il faut que je précise aussi, au départ, je pensais que mon beau-père, c'était mon père hein, à l'époque. J'avais 7 ans et c'est une conversation entre ma mère et ma tante, sa sœur, qu'elles avaient et elles parlaient de moi. Et comme j'ai entendu mon nom, je me suis caché, je suis resté écouter. Et c'est là que j'entends... Pourquoi est-ce que tu le laisses appeler son beau-père papa? C'est pas son papa. Donc, c'est comme ça que j'ai su, hein, mais ce n'est pas, personne ne m'a révélé, en fait, les choses. Je l'ai découvert accidentellement et je t'avoue vraiment, tout s'est effondré. Donc, tu vois, quand je t'ai parlé de mensonges, même là aussi, ma mère me ment. Il y a eu plein de questionnements, en fait. Qu'est-ce qui est vrai? Des fois, je me suis même posé la question là concernant elle. Est-ce qu'elle est réellement ma mère? Est-ce que je n'ai pas été adoptée? Parce que aussi, tu vois, j'entendais aussi les gens dire, oui, des fois, des gens posaient la question à ma mère. Tu es sûr que c'est ton enfant? Parce que il pense pas comme toi, hein, il est différent de toi. Tu es sûr que c'est ton enfant? Tu l'as pas adopté ou bien il n'y a pas eu un échange de bébé à la maternité? Et tu vois, en Guadeloupe, la particularité, tu vois, un peu comme pour les Haïtiens, on a le créole guadeloupéen. Donc, les gens parlent en créole. Donc, pour eux, je comprends pas. Parce que, tu vois, j'avais l'interdiction de parler le créole. Même si ma mère, mon beau-père, même d'autres membres de ma famille me parlaient en créole. Mais moi, je répondais en français. Mais je comprenais. Mais comme je parlais le français tout le temps, même quand les gens parlaient le créole, je répondais. Mais donc, il se mettait à parler en créole à ma mère, comme ce que je te dis là. Et j'entendais ça. J'ai entendu ça beaucoup. Mais je comprends pas. Est-ce que c'est vraiment son enfant? Donc, c'est pour ça que quand j'ai fini par... Le jour où j'ai entendu la discussion entre ma mère et ma tante, ben, tu vois, tout de suite, il y a eu ces questionnements-là. Bon, déjà, c'est qui mon papa? Et au niveau de ma mère, puisqu'elle s'est permis de me mentir sur quelque chose d'aussi important, sur quoi d'autre elle m'a menti? Est-ce qu'elle ne m'a pas menti même sur elle? Et tu vois aussi, c'est pour ça aussi, quand je me suis rappelé aussi tout ce que j'entendais les gens dire, je me suis dit, c'est peut-être pour ça, en fait. Je me suis dit, c'est peut-être parce que c'est pas ma maman. Parce que c'est vrai, je me sentais différent. Je me sentais pas compris, déjà pas aimé. Donc, je me suis dit, ben, c'est peut-être parce que je suis pas son fils. Elle m'a adopté. Mais bon, Après, au fur et à mesure, en cherchant, j'ai compris que c'est juste une différence de personnalité aussi, l'éducation qu'il y a eu, ses croyances versus les miennes qui étaient complètement différentes, qui faisaient ça. J'ai pu voir que c'est vraiment ma mère après. Mais sur le coup, c'est ça que je me suis dit. Tout s'est effondré autour de moi, en fait. À savoir, mais qui croire vraiment? Qui est-ce que je peux vraiment croire? C'est suite à tout ça, déjà, que le désir de paternité est né. C'est là que ça s'est vraiment encore plus matérialisé. Le fait de voir tout ce temps, ce sentiment de rejet, de solitude de la part de ma mère, de mon beau-père, et versus quand j'ai appris pour mon géniteur, mon père. Et même aussi, tu vois, aussi de l'ensemble de la famille, puisque j'avais pas ce sentiment d'être aimé. Même aussi des groupes des pères, je n'en avais pas. J'étais plutôt proche des filles, pas des garçons. Et c'est là, en fait, que le désir est venu. Au départ, le désir de paternité. Parce que je me suis dit, regarde tout ce que j'ai manqué. Et je me suis dit que, autant tu vois cet amour que j'ai eu besoin, autant de recevoir et de pouvoir en donner, le jour où j'aurai des enfants, je pourrais justement le leur donner, pouvoir leur donner ce que j'ai pas eu. Et surtout aussi, parce que je disais que je ne veux pas reproduire, tu vois, le même schéma. Donc, je me suis dit déjà, ce serait une façon de pouvoir faire la différence. Sans vraiment encore me poser la question, mais pourquoi vraiment les raisons profondes de ce désir de paternité? C'était comme ça, parce que comme je t'ai dit, l'environnement m'a montré que les gens avaient des enfants. J'ai pu voir, entre guillemets, en vitrine, des familles, entre guillemets, soudées, et il y avait des enfants. Donc pour moi, c'était un peu naturel, tu vois ça. Mais ce qui est venu un peu plus précis, c'est par rapport à le traitement que moi j'ai vécu personnellement. Et j'ai dit, bon, je ne veux pas faire subir ça et je ne veux pas que la prochaine génération, parce que donc si j'ai une descendance, c'est ça que je disais à l'époque, ça sera différent. Il est hors de question de reproduire les mêmes vieux schémas, tu vois, même au niveau de la violence physique, psychologique, tout ça.
Quel a été le point de bascule pour toi?
Ça a commencé, tu vois, à mes 18 ans, quand j'ai pu vraiment prendre conscience que j'étais différent sur le plan au niveau de l'identité sexuelle. Puisque déjà, je me suis rendu compte, tu vois, qu'il y avait cette attirance envers les garçons qui était très présente, très intense même, je dois dire. Parce que je comprenais pas, tu vois, je pouvais voir certains types de garçons, on s'entend. Hein? Et tout de suite, ça durcissait en bas. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais déboussolé, j'étais perdu, je ne comprenais pas. Et comme je te dis, l'environnement religieux dans lequel j'ai grandi condamnait ça. Et là, le fait d'avoir pris conscience de ça, ayant été imbibé de toutes ces croyances religieuses, ben, j'étais pas bien avec moi. Il y avait un coup, en fait, sur moi avec mon identité. J'avais honte de moi parce que je me suis dit, ah, au départ, je disais, je suis homosexuel. Je vais aller en enfer, tu vois, ce genre de choses. Je me disais ça à ce moment-là et j'avais entamé ce qu'on appelle, tu vois, la thérapie de conversion. Ce que je ne savais pas que c'était ça, hein, mais c'est après j'ai su mettre le mot sur ces pratiques, oui, parce que mais j'avais honte, j'avais du mal à accepter. Je me suis dit comment ça se fait, surtout dans l'environnement, on condamnait ça ou bien ça pouvait être une source de moquerie, tu vois, quand il y avait la période du carnaval. Tu voyais des hommes, plein de gars, soi-disant virils, qui se déguisaient en femmes, tu vois, pour faire genre, mais de manière très caricaturale. Ou des fois, tu as même des humoristes aussi qui faisaient ça dans ce genre de cas. Mais sinon, plus sérieusement, il y avait...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3 months required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Additional taxes, fees, and restrictions apply. See mintmobile.com.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Pas quelque chose, une discussion sérieuse là-dessus. C'était, ah, c'est un péché, ils vont aller en enfer, c'est pas la volonté de Dieu. Tu vois, c'est ce genre de choses que j'avais entendu. Et quand moi, je me suis rendu compte, j'ai vraiment mis en conscience tout ça, ben c'est vrai que j'étais mal. J'étais très mal, j'ai culpabilisé. Et c'est un peu, tu vois, toutes ces raisons, en plus de ce que j'avais dit précédemment, qui m'ont aussi poussé un peu à vouloir mettre fin aussi à mes jours. Le fait de me rendre compte que je suis, entre guillemets, différent, que je suis, entre guillemets, maudit par rapport à cette orientation sexuelle, ça a été difficile. Et puis au fur et à mesure, tu vois, j'ai été dans des églises mais évangéliques où, je me rappelle, le pasteur m'a dit de faire des jeûnes et des prières. Il y avait des versets, tu vois, spécifiques de la Bible, psaume 23, 91, que je devais lire et que je devais faire des jeûnes de plusieurs heures, ce qui commençait de 6 heures du matin à 18 heures. J'ai fait ça, ben c'est ça la thérapie de conversion. Et tu as aussi des cas beaucoup plus extrêmes. Moi, j'ai pas été dans le cas extrême, contrairement à d'autres personnes qui ont été victimes de ça, mais j'ai fait ça pendant beaucoup d'années. Même aussi quand j'ai quitté la Guadeloupe pour le Canada, j'ai continué aussi. Je cherchais des groupes de prière, comme ils appellent ça, pour qu'on puisse prier pour moi, ce genre de choses. Pour vraiment, en fait, me libérer de cet esprit d'homosexuel. Voilà, parce que les religieux parlent d'un esprit démoniaque, en fait. Faut qu'on le dise, hein. Un esprit démoniaque d'homosexualité. Donc, c'est ça, en fait. J'ai prié et on s'entend que ça n'a rien changé. Et justement, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, ah, mais je suis, tu vois, c'était pas clair encore. À l'heure actuelle, je me qualifie, même si j'aime pas les étiquettes, de bisexuel, parce qu'il y a quand même cette attirance encore que j'ai remarqué qui est présente envers les femmes. Même si, tu vois, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus présent. Je ressens plus l'attirance vers les hommes, mais il m'arrive aussi, parfois, dépendamment de l'occasion, si je vais voir une fille, un certain type de femme, j'aurai une certaine attirance. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, si je dois mettre une étiquette selon la société, c'est bisexuel. Il se peut que ça puisse changer, les choses puissent encore se reclarifier pour moi au niveau de mon identité sexuelle. Mais pour l'instant, tu vois, c'est comme ça. Mais à l'époque, pour moi, je pensais tout de suite homosexuel. Et je me suis dit, ah, mais je suis homosexuel, comment je vais faire? Puisque moi, j'avais le schéma classique, me mettre avec une femme pour copuler et avoir un enfant. Et j'étais pas au courant de tous les moyens qu'il existe à l'heure actuelle, tu vois, avec l'évolution de la médecine et tout ça, qu'il y avait. Donc, pour moi, c'était ce moyen-là. Parce que en Guadeloupe, j'avoue, on est encore très, très en retard sur beaucoup de choses, même encore en 2023. Donc, c'est sûr que j'étais pas au courant de tous ces moyens. Donc, pour moi, je me suis dit, oh, mais je ne pourrais pas avoir d'enfant puisque déjà, je suis attiré par un homme. Je ne me voyais pas coucher avec une femme. Juste, tu vois, je me suis dit, c'est pas possible, vu qu'il n'y a pas l'attirance. Et c'est, tu vois, c'est là que je me suis vraiment lancé corps et âme dans la thérapie de conversion pour me reconvertir à l'hétérosexualité, pour pouvoir me permettre de me mettre en couple avec une femme et pouvoir avoir un enfant ou plusieurs enfants. J'étais motivé parce que ce désir de paternité était présent à cette époque-là, comme je te disais. C'est là que j'ai commencé à me re-questionner. Enfin, mais comment je vais faire? Mais je pourrais plus. Et c'est là que j'ai fait ça. Et comme tu vois, j'ai commencé à voir que cette thérapie de conversion ne me sert strictement à rien, que c'est de la connerie. C'est là que j'ai commencé au fur et à mesure à m'interroger sur les causes profondes maintenant, tu vois, de ça. Et le déclic a vraiment commencé aussi en 2017. Donc, j'étais déjà au Québec où justement, c'est une dame qui m'a parlé. Elle m'a dit, « Oh, Rafata, pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Parce qu'elle avait vu sur Facebook où j'avais écrit dans un groupe de prière pour prier pour moi, pour me libérer. Et je t'avoue, elle m'a parlé, ça a résonné en moi, ça a été comme... Elle me dit, « Mais pourquoi tu fais ça ? C'est naturel ce que tu as, tu n'es pas anormal. Pourquoi est-ce que tu te fais du mal comme ça ? T'es bien comme tu es. Il est important que tu t'aimes et que tu cesses de te soucier des autres. Tu es normal. » Et je t'avoue que ça a digéré, ça a résonné en moi. Et c'est vrai, je me suis dit, mais pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je me mets à faire tout ça, en fait ? Ça a été le déclic. Et c'est là que j'ai dit, ça suffit. J'ai dit, je m'arrête. C'était en 2017. J'ai dit, ça suffit. Et au fur et à mesure aussi, il y a des gens aussi, des religieux à l'époque, je leur ai dit pleinement, vous savez, hein, si je dois aller en enfer, j'irai en enfer, mais je ne me suis pas levé un matin pour dire, ah, que je veux être homo. À l'époque, hein, tu vois, c'était toujours ça. J'ai dit, moi, en tout cas, j'arrête ces histoires de thérapie de conversion. Je dis ça, c'est pour les gens qui vont nous écouter, qui savent vraiment que ce que je faisais, c'était de la thérapie de conversion. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore ce terme. Je leur ai dit, moi, j'arrête. Et ils me disent, pourquoi? J'ai dit, moi, je suis désolé. Et j'ai dit, arrêtez de m'envoyer vos versets de la Bible. J'ai dit, c'est comme ça, je vais vivre. Et il y a des gens comme ça qui se sont éloignés de moi, tu vois, par rapport à cela. Je t'avoue que ça m'a fait mal, hein, par rapport à tout ce que j'ai vécu. Il y avait toujours cette dépendance affective qui était présente à l'époque. Donc, là encore, je revivais un sentiment, tu vois, de rejet. Et c'est pour ça aussi que je faisais tout ça. C'était pour me faire aimer, éviter de me faire rejeter. Mais ce que je ne réalisais pas en faisant ça, c'est que, en fin de compte, je me faisais plus de mal que de bien. Et en même temps donné, je ne me donnais pas de l'amour. Parce que, en essayant de vouloir essayer de me faire accepter des autres, je me faisais du mal et je ne m'aimais pas. Et ce que je pensais de l'amour de ces personnes n'était pas du tout le cas. C'était juste une illusion. Le 12 décembre 2021. Je note bien la date. Le non-désir est vraiment venu puisque j'ai quand même commencé un peu avant, mais pas en profondeur comme j'ai commencé depuis 2021. Mais tu vois, j'analysais les choses. Quand j'ai commencé à faire la rétrospective, à commencer à voir le comportement non seulement des hommes comme des femmes de ma famille, hein, mais surtout les hommes, parce que moi, en tant que père, tu vois, le fait d'être papa. Et c'est là, comme tu vois, j'ai commencé à voir. Oui, mais il y avait des hommes qui étaient là, mais ils étaient aux abonnés absents. Ils étaient là sans être là. Ou bien quand ils étaient là, c'était toujours pour montrer un comportement très dur. Ou bien ceux aussi qui vidaient leur bourse, mais ils disparaissaient. Et après qu'ils allaient dire « Oui, j'ai des enfants, j'ai une descendance », mais ils se sont occupés de zéro. Tout cet aspect-là que j'avais pas encore regardé au début. Et aussi même, tu vois, dans ma famille, j'ai dit « Mais il y a des gens qui ont des enfants, mais excusez-moi, ils auraient mérité de ne pas en avoir. » Oui, je me suis dit ça, à commencer par ma mère. Oui, mais quand tu vois les traumatismes qu'elle avait, les blessures et les traumas qu'elle avait, il aurait mieux fallu qu'elle évite d'avoir des enfants. Et tu vois, par rapport à tout ça, les blessures, les traumas, c'est là que tu vois que j'ai compris que... Mais pourquoi en fait avoir des enfants en fait? Pourquoi, en fait, je veux avoir des enfants? Alors, c'est pour ça, alors j'ai dit donc, une descendance. Avoir des enfants, tout ça, de mon sang. D'accord, tu sais, leur donner de l'amour, ne pas reproduire le même schéma, faire une nouvelle génération équilibrée, soit. Mais derrière tout ça, tu vois, c'était pas fort. C'était pas fort. Et c'est là que j'ai dit, mais attends, non. Tu vois, c'est là au fur et à mesure... Les choses ont commencé à devenir. Et c'est là encore, ça m'a poussé encore plus encore dans cette réflexion en profondeur. C'est quand une fois, il y avait un membre de ma famille par rapport aux injonctions. « Oh, où est ta copine? T'as toujours pas de copine à ton âge? Ah, mais il faut pas que tu attendes trop longtemps, tu sais, parce que pour avoir des enfants, hein, parce que l'âge monte, hein, faut pas que tu sois trop vieux. Hein. » Et c'est là tout de suite, je lui avais répondu cash. Je lui ai dit, tu ne t'es pas dit que je ne veux pas d'enfant? Non? Ça ne t'a pas traversé cette idée dans la tête, cette option que je ne veux pas d'enfant peut-être? Et là, ça a été silence radio parce qu'elle s'y attendait pas. Et c'est là encore avec ça, j'ai dit, ah, mais effectivement, hein, ils sont dans ce schéma, oui, être en couple, te marier, avoir bien sûr un travail, avoir des enfants. Si vous êtes dans ce cas de figure, essayez de vous entourer de personnes, de vous rapprocher de personnes qui sont concernées, au moins pour avoir une oreille bienveillante, pour pouvoir au moins déjà vous confier, de pouvoir vous permettre d'extérioriser cela. Ça, c'est déjà la première chose parce que je n'ai pas eu ça. J'ai cherché, mais il n'y avait pas cela, justement. Et c'est ça la bénédiction, je vais dire, pour moi d'être venu au Canada. J'ai pu trouver ça. Parce que si vous êtes dans un environnement, peut-être des gens qui sont dans les Antilles, en Afrique, peu importe, hein, parce que ça peut être même ici au Canada, il y a encore des familles qui ont ce type de pensée, ce type de raisonnement encore en 2023. Donc, c'est vraiment pouvoir chercher pour commencer, même une personne proche ou sinon un professionnel aussi, pour pouvoir vous confier, pour pouvoir en fait vous libérer, vider votre sac avec tout ça. Parce que ce sont des émotions après qu'on garde et qui se cristallisent en nous. Et ces mots qu'on ne peut pas verbaliser, M-O-T-S, vont devenir des mots M-A-U-X. Et ça peut créer toutes sortes de maladies dans le corps. Moi, j'encourage tout le monde parce que j'ai eu des mots M-A-U-X à cause de tout ça. Parce qu'on intériorise. On intériorise cela. Donc, c'est compliqué. Et encore plus pour les hommes, puisqu'on ne nous apprend pas à exprimer nos émotions en tant qu'hommes. Et n'hésitez pas aussi, quand vous le pouvez, et je ne vous dis pas d'aller sur la place publique le faire, mais si vous sentez ce besoin de pleurer, allez vous enfermer dans votre chambre, allez dans des toilettes, peu importe, un lieu clos, et pleurez un bon coup. Parce que ça vous fera du bien. Mais trouvez une façon d'extérioriser vos émotions. Peu importe la manière, qui soit quand même adéquate, sans blesser personne, bien sûr. Et si vous avez la possibilité aussi, deuxième étape, éloignez-vous dès que c'est possible de cet environnement dans lequel vous êtes, de toxicité. Parce que l'environnement aura cette influence sur vous, qu'on le veuille ou pas. Comme moi, l'environnement a eu cette influence. Et surtout, messieurs aussi, ceux qui seraient dans mon cas, parce qu'il en existe plein, mais qui n'oseront pas le dire, concernant ce non-désir de paternité, assumez-le. Il n'y a rien de mal là-dedans. Vous voyez? Vous ne faites rien de mal à personne, justement, et vous n'avez rien non plus à prouver à personne ni à vous justifier. Parce qu'il se peut aussi que c'est les excuses qu'on va entendre, hein. C'est parce qu'on n'aime pas les enfants. Ou bien c'est parce qu'on a un traumatisme. Combien de personnes qui ont des enfants et qui ont des traumatismes? D'accord? Ma mère même elle en avait. Mon père en avait. Si je regarde les gens de mon entourage, ils ont des traumatismes. Donc, sortir l'excuse du trauma parce qu'on ne veut pas d'enfants, je trouve que c'est limite. Je ne dis pas que ça ne peut pas être une raison, mais ce n'est pas que ça. Parce que sinon, si c'était par rapport à ça, on s'entend qu'il y aurait eu plein de personnes qui n'auraient pas fait d'enfants. Si c'était vraiment les traumas. Même de manière générale, et c'est pas pour dire que, par exemple, non, c'est les femmes qui vont vivre plus de pression, ou bien non, c'est les hommes. Les deux vivent une pression. Moi, je suis pas là pour essayer de mettre une unité de mesure. Les deux vivent une pression. En tant qu'homme, tu vois, déjà, il y a cette pression, tu vois, comme j'avais un peu expliqué, du pourvoyeur. Il doit être pourvoyeur. Il doit être protecteur. Il doit souvent montrer qu'il est solide. La preuve, il y a cette injonction sociétale que je trouve, entre guillemets, dégueulasse. Tu vois, quand on parle du sexe de l'homme, on dit bien le sexe fort et la femme, le sexe faible. Et tu vois déjà ça, pour revenir à l'homme, le sexe fort. Tous ces qualificatifs pour montrer qu'il doit être robuste, qu'il doit être résistant. Ah oui, et aussi chasseur, entre guillemets. C'est encore une bêtise. Le fait, l'homme chasseur. Et c'est pour ça, tu vois, il y a plein d'hommes qui se mettent à avoir des enfants. Parce que c'est ça, en fait. C'est dans leur conditionnement, l'homme chasseur. Des fois, ils ne se sont même pas posé la question, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent des enfants? Souvent, ils vont dire, oui, pour avoir une descendance. Je veux une descendance. Ah, c'est tout? Et plein ne s'en occupent même pas. Mais comme le conditionnement est le lavage de cerveau, l'homme chasseur, eh bien, il chasse. Il chasse sa proie, qui est la femme, pour vider sa bourse, pour après avoir sa descendance. Et souvent, je me dis, tu vois, parmi tous ces hommes-là, ça, qui ont des enfants, est-ce que nous nous sommes posé la question, est-ce que ces hommes-là, ça, voulaient réellement des enfants? Est-ce que ce n'était pas justement pour un peu éviter cette pression? Tu vois, ça, c'est un questionnement que je dis, ça ne veut pas dire que c'est le cas, hein, c'est juste, est-ce que ce n'était pas justement pour éviter cette pression de la part de leur entourage, de se dire, ah, tu n'as pas fait d'enfant, etc. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Il y en a beaucoup que c'est ça, justement. Et pour te dire que pour les femmes, tu vois, tu entends plus ça parce que comme il y a ce mouvement, cette libération de la parole qui se fait de plus en plus, donc tu entends beaucoup de femmes qui parlent, contrairement à des hommes qui ne parlent pas. C'est ça le problème. Il y en a très peu qui parlent. Ils sont beaucoup dans ce mutisme émotionnel, malheureusement, qui fait que, on ne sait pas, mais si tu vois de la même manière, tu vois qu'il y a des femmes qui prennent de plus en plus la parole, tu vois, des hommes le font, bon, on serait très, très, très surpris. C'est moi qui te dis. On serait très surpris. Mais dans la communauté afro, afro-descendante, je ne dis pas que je suis le seul, hein, mais je fais partie de ces rares hommes de la communauté afro-descendante, tout ça, qui va parler et dire cela. Tu entends beaucoup plus d'hommes, j'ai pu entendre des témoignages, mais c'est des hommes hors de la communauté africaine, caucasiens, comme on dit, tu vois, qui parlent, même si même à leur niveau, ils sont très peu nombreux. Mais au niveau des hommes de la communauté afro-descendante, même africaine, zéro. Zéro. Même quand j'avais abordé cette discussion, tu vois, sur Clubhouse, sur le non-désir de paternité, et j'avais profité pour donner mon témoignage, il y en a qui disaient, ah, ça n'existe pas chez moi, ça. J'ai dit, ça n'existe pas parce que tu n'en connais pas qui te l'ont dit personnellement? Ou bien tu en conclus parce que tu vois tous les hommes que tu connais dans ton entourage avoir des enfants, tu conclus que les hommes veulent des enfants? Et ça a été silence radio. Donc, j'ai dit, voilà. Donc, j'ai dit, c'est de ne pas vous baser sur ce que vous voyez pour penser que parce qu'il y a des gens que vous voyez qui ont eu des enfants, qu'ils en voulaient obligatoirement. Et il y en a plein. Et il y en a plein aussi, ça aussi, hein, qui ont eu des enfants et qui regrettent d'en avoir eu. Ça existe. Ça existe autant chez les hommes et chez les femmes.
D'écouter Tant que je serai noire, un témoignage de Rafata. Cet épisode a été réalisé par Tipora Sidibé, le montage par Alice Krief. Pour nous partager une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@tantquejeserainoire.com. À très vite!